et ce que ça nous apprend finalement de nos rapports avec les animaux. Mais je vais reprendre depuis le début pour ceux qui n'auraient éventuellement pas suivi. Il y a un peu plus d'un mois, donc c'était le 23 mars. Une baleine à bosse est repérée, échouée sur un banc de sable dans la baie de Lübeck au nord de l'Allemagne. Et soyons clairs, la mer Baltique, c'est pas l'habitat naturel d'une baleine à bosse. C'est une mer quasiment fermée, trop peu salée et trop profonde pour ce mâle de 12 tonnes et 12 mètres de long. Les spécialistes supposent qu'il s'est perdu en suivant les bancs de harengs ou bien qu'il a été désorienté par le bruit sous-marin. Bref, il n'aurait jamais dû se trouver là. Et la pauvre baleine est mal en point. Elle traîne un filet de pêche coincé dans la gueule et a sans doute avalé des morceaux de ce filet. Elle a des blessures probablement causées par une hélice de bateau. Et comme l'eau de la Baltique est beaucoup trop peu salée, pour elle en tout cas, elle développe une sévère maladie de peau. Quelques jours après sa découverte, la marée basse laisse la baleine à sec une première fois. Elle se libère à la marée haute suivante, rebelote quelques jours plus tard dans la baie de Wismar cette fois. Elle repart, s'échoue à nouveau, repart encore. 4 échouages successifs en un mois. Voilà, et un mois au moins qu'elle ne se nourrit plus. Et pendant ce temps, Cédric, toute l'Allemagne se déchire. Des caméras diffusent la situation en direct. Il y a des centaines de curieux qui s'amassent derrière les barrières tenues par la police. Des chaînes humaines se forment. Il y a un ministre de l'Environnement qui est attaqué en justice pour non-assistance à personne en danger. Des policiers reçoivent des menaces de mort. Et même le prénom de la bête divise, puisque les uns l'appellent Timmy, on l'a dit. Les autres veulent l'appeler Hope, comme espoir en anglais. C'est tout un pays qui bascule dans une émission qu'on n'avait que rarement vue pour un animal. Et qui s'affronte? D'un côté, on a le camp du sauvetage à tout prix. On y retrouve 2 millionnaires allemands, dont le cofondateur de Mediamarkt. Ils ont affrété une opération privée avec des plongeurs, des scooters sous-marins, des coussins d'air gonflables et un immense filet hamac pour soulever la baleine et la remorquer normalement jusqu'à l'Atlantique. L'un d'eux a d'ailleurs déclaré aimer désormais Timmy autant que son propre chien. Dans leur camp, on retrouve aussi des associations comme Sea Shepherd, le sauveteur médiatique Robert Mark Lehman et surtout une immense vague populaire des citoyens ordinaires, émus aux larmes. De l'autre côté, il y a les scientifiques. Ils sont quasiment unanimes. Leur conclusion, elle est résumée d'ailleurs sur vos ondes par le biologiste marin belge Kel Moreau de l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles, un spécialiste donc des cétacés. Les chances de survie d'un cétacé de plus de 5 mètres qui s'échoue sont quasi nulles. Il y a une raison physiologique à cela, c'est que dans l'eau, le corps d'une baleine est porté par la poussée d'Archimède, mais une fois échouée, elle est écrasée par son propre poids, sa cage thoracique compresse ses organes, la circulation sanguine ralentit, les tissus musculaires se nécrosent, les poumons gonflent, enfin voilà. À cela s'ajoute la surchauffe, puisque privée de l'eau qui dissipe sa chaleur, isolée par une épaisse couche de graisse, la baleine, elle cuit littéralement de l'intérieur. Et plus l'animal est gros, plus le piège se referme vite, et Timmy, il fait non pas 5 mètres, mais 12 mètres. La baleine, elle est malade et a peut-être de l'eau dans les poumons. Donc chaque intervention de l'homme ne fait que rajouter du stress à un animal mourant. D'autant qu'après chaque dégagement, Timmy vient s'échouer à nouveau, démontrant au mieux son état malade et désorienté, au pire, selon certains, son envie de mourir. Des affirmations qui font écho à ma précédente chronique sur le suicide des animaux. Mais au-delà du cas de Timmy et de sa médiatisation et des débats que ça suscite, ce qui me questionne, moi, Cédric, c'est ce que cette histoire révèle sur nous et nos relations avec les animaux. Des relations qui ont toujours été complexes et quelque peu paradoxales. Et je vais m'expliquer en revenant sur 2 ou 3 épisodes de notre histoire que j'estime fondateurs dans cette réflexion. Et le premier, il nous fait remonter au début du 19e. Les villes européennes sont en pleine explosion industrielle. Les animaux domestiques qui étaient habituellement réservés aux campagnes envahissent les rues des villes. Des chevaux de trait sont frappés à coups de fouet pour tirer des charges beaucoup trop lourdes. Des bouchers abattent des bêtes à même la rue. Des mules qui s'effondrent de fatigue sur les pavés. Toute une violence quotidienne envers les bêtes, jusque-là qui était cachée aux yeux de la bourgeoisie, devient un spectacle urbain permanent. En 1849, à Paris, un militaire de carrière, le général Jacques Delmas de Gramont, est élu député. Profondément marqué par ses mauvais traitements, il propose à l'Assemblée nationale la toute première loi française de protection animale. Mais dans l'hémicycle, ses opposants se mettent à aboyer, à miauler, à hennir pour le ridiculiser, lui et sa loi. Je vous jure que j'invente rien. La loi passe quand même le 2 juillet 1850 et elle condamne, je cite, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. Publiquement. Le mot, il est crucial. Il s'agit donc pas d'interdire la cruauté, il s'agit d'interdire son spectacle. Exactement. Battez votre cheval à mort dans votre ferme, il n'y a aucun problème. Faites-le dans un coin d'une rue, c'est une infraction. Il faudra plus d'un siècle pour que cette condition de publicité disparaisse du droit français. La loi Gramont, c'est donc moins l'acte de naissance de l'empathie pour les animaux que l'acte de naissance d'une règle sociale. La cruauté, c'est ok si on ne la voit pas. À la même époque, un autre phénomène illustre ce rapport ambigu à la visibilité, les zoos. Au XIXe siècle, les grandes capitales rivalisent de ménageries où l'on exhibe des lions, des éléphants, des girafes pour l'émerveillement du public. Mais ces établissements sont alors de véritables mouroirs, isolement dans des cages minuscules en béton, sans aucune stimulation. Les animaux y développent ce qu'on appelle aujourd'hui des stéréotypies, hein, des tigres qui font les 100 pas, les ours qui balancent la tête de gauche à droite pendant des heures, et des éléphants qui se dandinent sur place. Des comportements pathologiques que les visiteurs longtemps ont pris pour des particularités amusantes des animaux. Jusqu'au jour où on a commencé à comprendre. Et c'est parce que le public a vu ces animaux dépérir qu'il a peu à peu exigé mieux. Et aujourd'hui, les parcs zoologiques modernes revendiquent une mission de sensibilisation et de conservation. Une fois encore, c'est la visibilité qui a été le déclencheur de changement. Et donc nous voilà en 2026, avec Timmy, une nation entière qui pleure pour une baleine diffusée sur les ondes radio et télé 24 heures sur 24. Pourtant, pendant qu'on se déchire pour Timmy, des dizaines de milliers de baleines anonymes meurent chaque année, percutées par des bateaux ou empêtrées dans les filets de pêche industriels, très loin des caméras. Des dizaines de millions d'animaux d'élevage sont abattus chaque jour en Europe, derrière les murs des abattoirs. Et des milliards de poussins mâles sont broyés ou gazés vivants chaque année dans le monde. Pour eux, il n'y a pas de larmes, ni de prénoms, ni de chaîne humaine. Le sort de Timmy, il est donc sans doute lui scellé, mais ce qui reste ouvert, c'est ce qu'on en retiendra finalement collectivement. Cette histoire, elle aura au moins le mérite de nous poser brutalement finalement la question. Est-ce qu'on est capable de pleurer pendant un mois pour une baleine que nous voyons mourir, à qui on a donné un prénom et que l'on a médiatisé? Mais sommes-nous prêts à étendre cette empathie à tous les animaux que justement on ne peut pas voir?
Oui, mais comment
notre chien, notre chat, on a une énorme empathie envers lui, on est prêt à déplacer des montagnes pour cet animal que l'on connaît bien, exactement comme pour Timmy, alors que finalement, cet individu envers lequel on a une énorme empathie, on n'en a pas une miette pour les frères et sœurs de la même espèce pourtant, auxquels l'humain, à travers ses pêches diverses ou les changements climatiques qu'il occasionne, malmène.